Chapitre 32e, la statue. Les grandes dames qui formaient le cercle intime de Doxia ne tardèrent pas à se réunir autour d'elle. « Très auguste souveraine, dit Thaïs, j'ai ouï dire que votre statue en argent était achevée, et merveilleusement belle. Quand sera-t-elle inaugurée, et en quel endroit ?»« Elle sera placée très prochainement sur la grande place entre Sainte-Sophie et le Sénat. On l'élèvera sur une magnifique colonne de porphyre que j'ai fait venir d'Alexandrie, où est ornée l'entrée du temple de Sérapis. « Oh, superbe !» s'écria Thaïs. « Il fallait que ce dieu tombât pour que la déesse fût élevée. « Quel charmant symbole de votre victoire sur les idoles du polythéisme !» dit Castricia. « Et comme la place est bien choisie !» fit observer Marsa. « Au cœur de la ville, au centre des plus grands intérêts du peuple, dans le palais du Sénat, on agite les affaires du monde. Dans l'église, on s'occupe des choses célestes, et l'image de l'impératrice représente la haute vigilance qu'elle exerce sur ces deux éléments auxquels elle fait sentir son influence souveraine. Que nous sommes heureux et dignes d'envie de posséder une aussi grande impératrice, s'écria Eugraphia avec transport. J'ai décidé, dit Eudoxia, qu'à l'inauguration de cette statue, l'effet d'usage serait triplé. L'empereur a été très blessé. Que son auguste frère Honorius se soit permis de blâmer l'envoi de ma statue dans les provinces, comme un honneur réservé aux seuls empereurs. Et c'est pour cela même que les réjouissances publiques données à cette occasion doivent surpasser tout ce qui s'est jamais fait en pareille circonstance. « Quelle cruauté de la part de l'empereur Honorius !» s'écria Thaïs avec indignation. « Vouloir priver les provinces de l'honneur de posséder votre image, ô noble impératrice ?»« Je dois cette satisfaction à mon bon peuple de Constantinople, » dit Eudoxia. « Il m'est si dévoué, si attaché, et il me le prouve chaque fois que je parais en public par tant de démonstrations de joie, que je me sens obligé à lui offrir ces réjouissances auxquelles il est très sensible. D'où vient qu'on fait courir le bruit que le patriarche a défendu ses fêtes ? Demanda Castricia. Vous venez d'entendre que l'impératrice les a ordonnées, répondit Eugraphia avec vivacité. Aussi, il n'y aurait que l'esprit de contradiction qui pourrait mettre en circulation un bruit aussi ridicule. C'est pour cela même que je fais cette question, reprit Castricia. « Car ce bruit court très certainement en ville. »« Et que dit-on ? » demanda Eudoxia avec humeur. « On dit, répondit Castricia, que le patriarche trouve ces sortes de fêtes inconvenantes pour un peuple chrétien et veut les proscrire. »« J'ai entendu dire la même chose, » fit Marsa d'un air indifférent. « Mais je n'y attachais aucune importance, car on connaît suffisamment ses idées ascétiques, et l'on ne s'étonne pas que l'on fasse courir à son sujet des bruits ridicules. » « Mais il est insupportable, » dit Eudoxia vivement contrariée, « que ces bruits aient toujours un côté déplaisant, comment dirais-je, un certain piquant, une couleur désobligeante à mon endroit. »« Si j'étais impératrice, je ne m'en inquiéterais pas du tout, » dit Thaïs sans malice. « Il est tout naturel que le patriarche, vieillard maladif et d'une piété exaltée, ait quelquefois d'autres vues que la jeune, belle et glorieuse impératrice d'Orient. » Alors qu'il garde le silence sur ses vues, fit Eudoxia avec impatience. « Cela serait certainement plus convenable, » répondit Thaïs, déconcerté. « Peut-être est-on injuste envers lui ?» reprit Eudoxia avec plus de calme. « Personne n'a port de témoignage digne de foi, et il ne faut attacher aucune importance au bavardage de la foule. » « Il faut remonter à la source de ce bruit, pour le démentir, » dit Eugraphia. « C'est ce que je désire, » reprit Eudoxia avec vivacité. « Vous pourrez certainement découvrir de qui il vient, et si je sais cela, j'en sais assez. » Chrysostome était le seul être humain qui imposa à l'impératrice. Elle se sentait supérieure à tous les autres, à tort ou à raison, peu importe. Elle traitait tous les autres avec le sentiment de sa supériorité. Lui, non. Elle l'eût fait volontiers, mais elle n'y pouvait réussir. Quoi qu'elle dit, quoi qu'elle fît, elle ne pouvait, dans son fort intérieur, perdre le sentiment de son infériorité quand elle se plaçait, par la pensée, en face du patriarche. C'était une épine continuelle qui blessait et irritait son orgueil. Quand elle était très bien disposée pour le patriarche, elle calmait ce sentiment de fierté jusqu'à un certain point, par la pensée que la supériorité d'un saint homme n'avait rien d'offensant pour elle. Mais lorsqu'elle était montée contre lui, alors il lui semblait quelquefois impossible de souffrir dans sa capitale, un homme qui ne descendait pas de son siège patriarchal pour s'agenouiller devant sa volonté. Dans les derniers temps, ses rapports avec lui avaient été des plus amicaux. Chrysostome, par ménagement pour sa faiblesse, évitait autant que possible de dire quoi que ce fût qui lui pût, aux yeux d'Eudoxia, faire allusion à sa conduite. Elle croyait l'avoir gagnée, parce que c'était elle qui l'avait replacée sur son siège. Elle prenait ses ménagements, qui n'avaient en vue que la paix de l'Église, pour de la reconnaissance, tandis que dans le secret de son âme, elle lui était reconnaissante d'avoir détourné de sa tête le mécontentement public et de lui avoir rendu l'amour du peuple. Dans les moments de paix, elle supportait aussi cette idée, bien que la conscience d'être l'obligée fût pénible à un caractère comme le sien. Mais dans les jours de brouille, c'était pour elle un fardeau intolérable, et elle avait déjà désiré l'éloignement du patriarche pour que sa vue n'éveillât plus en elle ce torturant souvenir. Pour les âmes orgueilleuses, il est insupportable de penser que Dieu a créé quelque chose de meilleur, de plus élevé, de plus parfait qu'elles-mêmes, et elles ne peuvent comprendre que Dieu l'ait pu faire. L'impératrice avait recommandé à Eugraphia de ne plus charger Eugénius d'aucun message secret pour elle, parce que Gunilde s'en sentait blessée. Eugraphia se servit cette fois du ministère de Florus pour lui donner les renseignements désirés au sujet du bruit qui le chagrinait tant. L'impératrice savait à qui elle avait affaire, mais elle regardait Florus comme un instrument très utile. Elle agréa ses services, au moins indirects, et consentit à le recevoir. « Eh bien, lui demanda-t-elle d'un ton sec, a-t-on découvert si ce bruit a été imaginé sous un chêne ou sous un platane ?»« Auguste souveraine, je vous informe que le bruit en question n'est pas un bruit, car il repose sur un fait parfaitement avéré. »« Prouvez-le, » dit-elle. Le patriarche est allé chez Optatus et l'a invité, lui, préfet de la ville, chargé des préparatifs de la fête, à contremander ces scandales païens. « Vraiment ? Auprès d'Optatus lui-même » demanda-t-elle d'un ton incrédule. « Auprès d'Optatus lui-même » répéta Florus avec assurance. La noble Graphia crut devoir conclure de certains indices que le bruit venait du palais du préfet. Comme cela lui paraissait tout à fait invraisemblable, elle me chargea de prendre des informations auprès d'Optatus lui-même, qui m'a fait la simple réponse que je viens de transmettre à l'auguste impératrice. Il va sans dire que tout entier à vos ordres, il a repoussé la demande du patriarche, et qu'il a gardé le silence sur ce fait pour ne pas irriter le peuple qui aime et attend ses réjouissances publiques. Optatus a agi avec intelligence, dit Eudoxia avec une colère mal comprimée. Allez lui dire que je double la somme que j'ai destinée à ses préparatifs, et qu'il les fasse en conséquence. Il en sera très heureux, et se fera une joie d'appeler l'attention du peuple sur la munificence de l'auguste impératrice. Dites-lui encore qu'il presse l'érection de la statue. C'est une œuvre d'art d'un grand prix qui, placée sur la magnifique colonne de Porphyre, fera la joie du peuple et l'ornement de la ville. » Elle congédia Florus et resta dans une colère inexprimable contre Chrysostome. À ses yeux, il n'était plus qu'un insulteur de la majesté impériale. Il était de connivence avec l'empereur Honorius pour l'humilier devant le peuple. Chrysostome n'avait fait qu'une chose bien simple. Il avait prié Optatus d'éviter que ses réjouissances publiques tombassent un jour de fête religieuse et se passassent devant la porte même de l'église Sainte-Sophie, deux choses qui dépendaient de la volonté du préfet et qui ne pouvaient toucher en rien à l'impératrice. Le patriarche avait fait cette prière très confidentiellement pour éviter qu'elle pût donner lieu à aucune fausse interprétation. Mais Optatus, intime ami de Graphia, lui fit part tout aussitôt de la démarche de Chrysostome. Et c'était chez elle qu'avait pris naissance ce bruit sur lequel Florus venait de donner à l'impératrice des renseignements si précis et si mensongers. Eudoxia se rendit chez l'empereur. Elle se plaignit en pleurant sur la duplicité du patriarche qui feignait le dévouement tandis qu'il cherchait à l'abaisser, de l'humiliation qui atteignait la majesté impériale, de l'entente de Chrysostome avec l'empereur Honorius, et surtout avec Stilicon et Serena, de son propre malheur d'avoir dans sa capitale même un si impitoyable et si puissant ennemi de sa gloire, de son bonheur, de sa paix. Elle conclut en disant que ni elle ni la ville de Constantinople ne pourraient goûter de repos durable aussi longtemps que Chrysostome occuperait le siège patriarchal du haut duquel il ourdissait ses trames. Conclusion qui fut complètement partagé par l'empereur Arcadius. Il fut résolu qu'au prochain concile convoqué sur la demande de Chrysostome, on inviterait de nouveau ses ennemis déclarés de l'assemblée du chêne. Seulement cette fois, on se disposa à prendre des mesures telles que la déposition fût irrévocable. L'érection de la statue se fit avec un luxe tout à fait extraordinaire. Des troupes de danseurs et de chanteurs en brillants costumes exécutèrent des danses élégantes et chantèrent des chœurs à la louange de la divine impératrice, comme cela se pratiquait du temps du paganisme, chose qui blessait profondément le sentiment chrétien. Puis vinrent les plaisirs d'un autre genre. Les bouffonneries éhontées, les comédies immorales, les danses effrénées poussèrent les populations aux dispositions les plus licencieuses, favorisées encore par les orgies et les libations les plus scandaleuses. La sensualité brutale se donna librement carrière. Durant 3 jours et 3 nuits, à la clarté des torches et des lampes, on se livra à toutes les jouissances matérielles des yeux, des oreilles et de la langue. C'étaient des tables chargées de vivres et de boissons. C'étaient des concerts de voix et d'instruments qui ne cessaient de remplir les airs. C'étaient des comédies, des farces, des représentations théâtrales du genre le plus grossier qui se succédaient sans relâche. Et tout cela se faisait en l'honneur de l'impératrice, au pied de sa statue, qui semblait présider à toutes ces scènes de désordre et de confusion, et aussi tout près de l'église Sainte-Sophie. Le tumulte et le bruit troublaient le service divin et la prière des fidèles. Les flots de populace, la licence des chants, des danses et des spectacles, empêchaient d'aller à l'église beaucoup de gens qui n'avaient pas le courage de traverser cette Babel, et détournaient de leurs devoirs religieux un certain nombre de chrétiens peu fervents qui s'arrêtaient par curiosité aux farces de la place publique au lieu d'entrer dans la maison de Dieu. Pendant une de ces journées, Chrysostome monta en chaire. C'était bien le moins, quand des milliers de voix entraînaient au mal, qu'une voix se fit entendre pour le combattre. Il parla de la vanité de ces sortes de fêtes et du danger auquel, dans l'enivrement de ces joies bruyantes, on s'expose d'offenser Dieu. Ensuite, il s'éleva avec une sainte liberté contre l'imprudence de donner de pareilles réjouissances et d'y consacrer des sommes considérables. Eugraphia et Marsa firent à l'impératrice le rapport sur la joie et la reconnaissance du peuple. Marsa ajouta avec le ton de la conviction la plus profonde, « Noble impératrice, dans l'état d'exaltation enthousiaste où se trouve le peuple à l'égard de sa souveraine, il est tout à fait nécessaire de prendre une mesure décisive. » « En quel sens ?» demanda Eudoxia. « Je n'ai rien de plus à demander de mon bon peuple que son dévouement et son obéissance. » Il sera volontiers tel que vous le désirez, dit Marsa, s'il n'est pas, à chaque occasion, excité contre vous. Y a-t-il déjà du nouveau? Demanda Eudoxia en plissant le front. Tout ce qu'il peut y avoir de plus mauvais en parole. Je ne demande pas qui a parlé mal, je demande ce qui a été dit de mal, fit Eudoxia d'un ton impérieux. Mes lèvres se refusent à le répéter, répondit Marsa. Il le faut, s'écria Eudoxia. Parlez-vous, dit Marcia Eugraphia, je ne trouve point de mots. Eh bien, fit Eudoxia en se tournant avec une curiosité inquiète vers Eugraphia, qu'a-t-il dit? Je suis préparé à tout. S'élevant avec sa sévérité ascétique contre les réjouissances bruyantes du peuple, il a dit, du haut de la chaire de Sainte Sophie, Hérodias danse et demande la tête de Jean. C'est là une simple phrase tirée des Écritures, répondit Eudoxia étonnée. Je n'y puis voir aucune offense, aucune espèce d'allusion. « Comme vous êtes bonne, auguste impératrice, » dit Eugraphia du ton de la surprise. « Sans doute on pourrait penser qu'il a voulu simplement, par cette figure, montrer que les plaisirs des yeux peuvent entraîner au plus grand crime. Mais l'interprétation qu'il a faite de cette citation est telle que tous les auditeurs, et ils se comptaient par milliers, ont été convaincus que sa pensée était celle-ci. Une nouvelle Hérodias passionne et aveugle l'empereur et le peuple pour être assuré de l'agrément général s'il lui plaît de demander la tête d'un autre Jean. » Et l'impression que cette parole a produite, ajouta Marsa, a été si extraordinaire que les enfants chantent dans les rues, Hérodias danse et demande la tête de Jean. Les femmes esclaves chantent la même chose en faisant leur tâche. Et si on leur demande ce que cela signifie, et qu'elles soient sûres de n'être pas trahies, elles prononcent le nom auguste de l'impératrice. La mesure est comble, s'écria Eugraphia. Jamais aucun patriarche n'a traité de la sorte la majesté impériale. Oui. « La mesure est comble, » répéta Eudoxia avec une froide décision. « Cette fois, on agira autrement quand le moment sera venu. » Elle avait l'intention d'élever Sévérien sur le siège patriarchal, mais les grandes dames, ses confidentes, tout en admettant l'éloquence aimable et les manières élégantes de l'évêque de Gabala, étaient d'avis contraire. Elles démontrèrent à Eudoxia que cette nomination n'aurait aucun succès. Sévérien était un étranger d'une petite ville de Syrie, tout à fait inconnu du peuple de Constantinople, et seulement aimé de la cour. On devait craindre que le clergé blessé ne s'éloignât de lui, parce qu'il pouvait désirer qu'on choisît le patriarche dans leur rang, et le choix devait naturellement se porter sur le vieil et très digne archiprêtre Arsace, que Trope avait autrefois si ignominieusement oublié pour mettre à sa place Chrysostome. L'impératrice trouva, sans rien dire, que la contradiction était quelque chose d'insupportable, aussi bien de la part de ses amis que de celle de ses ennemis. Cependant, pour ne pas grossir les difficultés, et par égard pour les 80 ans d'Arsace, elle consentit à le désigner provisoirement pour le successeur immédiat de Chrysostome. Elle invita les dames qui l'entouraient à faire travailler les esprits dans ce sens. Assurées de la victoire, elles se remirent à l'œuvre avec d'autant plus de courage et de confiance qu'elles pouvaient plus que jamais compter sur la ferme adhésion de l'impératrice.